sur Radio Campus Tour. Bienvenue, chers auditeurs, si vous nous rejoignez en ce beau lundi 4 février. Chers auditeurs, savez-vous ce qu'est un serious game ? Eh bien, pour en savoir plus, je vous propose d'écouter une interview d'Anthony Mollet. À la suite de cette interview, nous recevrons les étudiants relais santé du SSU de l'Université de Tours. Bonne écoute et restez avec nous sur Radio Campus Tours.
Je suis le fondateur de la société CiviTime et CiviTime, donc on développe des serious games, des jeux pédagogiques pour engager les collaborateurs sur la démarche développement durable de leur entreprise ou sur la démarche RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Donc c'est une société que j'ai créée il y a 3 ans et le constat de départ, c'est que globalement les entreprises sont de plus en plus engagées en matière de RSE, mais souvent ces engagements sont pas connus, pas compris par les collaborateurs. Nous, notre job, c'est justement de rendre ces engagements-là plus tangibles et plus appropriables pour que les collaborateurs s'impliquent et soient in fine plus engagés dans la démarche RSE, mais aussi directement du coup plus engagés dans leur entreprise.
Voilà, donc vous êtes ingénieur d'affaires en développement durable à la base.
Effectivement, j'ai fait une école d'ingénieur d'affaires dont je suis sorti en 2013. Suite à ça, j'ai intégré la société Engie Cofeli, pendant laquelle j'ai travaillé pendant 4 ans en tant qu'ingénieur d'affaires développement durable pour justement accompagner les entreprises dans leur démarche, alors, davantage sur l'aspect technique et la partie efficacité énergétique. De ces échanges avec des entreprises et avec les clients, je me suis dit qu'il y avait sûrement un sujet. Jouer sur la partie technique, c'était bien, mais jouer sur l'aspect comportemental, je pense que c'est encore mieux. Et donc c'est comme ça qu'est venue l'idée. Idée que j'ai poussée auprès d'une association dans laquelle je suis membre, qui est la Jeune Chambre économique de Tours. J'ai monté ce qu'on appelle une commission au sein de la Jeune Chambre économique, donc une commission qui visait justement à sensibiliser les citoyens, alors au début le grand public principalement, hein, puisque l'objectif c'est de sensibiliser les Tourangeaux aux économies d'énergie à travers le jeu. Donc on a monté cette commission qui a très bien fonctionné et suite à ça on a été sollicité en fait par des entreprises en nous disant nous on aimerait utiliser votre solution pour sensibiliser nos salariés. Et donc là c'est là où je me suis dit ok, il y a ce qu'on appelle un time to market, donc c'est le moment d'y aller quoi. Et du coup j'ai quitté Engie pour créer CiviTime.
Alors la Jeune Chambre économique, est-ce que vous voulez expliquer ce que c'est?
La Jeune Chambre économique, c'est une association, donc association de loi 1901, qui il y a la Jeune Chambre économique française, qui a à peu près 1500 membres, et puis il y a des Jeunes Chambres économiques locales, dont la Jeune Chambre économique de Tours, où là, on est à peu près 50 membres. Donc, pour être membre de la Jeune Chambre économique, il faut avoir entre 18 et 40 ans. Et donc, il suffit, en fait, de tout simplement se rapprocher des membres du bureau pour pouvoir rejoindre le mouvement. Donc, il y a quand même tout un process, hein, c'est-à-dire qu'il y a il y a des formations fondamentales à faire pour pouvoir vraiment s'impliquer. Et puis ensuite, l'objectif de la Jeune Chambre, c'est de mener des actions d'œuvrer au quotidien pour améliorer, on va dire, la vie dans notre écosystème, donc la vie à Tours. Et pour ça, on mène des actions qui portent sur 4 piliers qui sont le développement économique, l'emploi, l'environnement et l'aménagement du territoire. Rien à voir, l'objectif de nos actions, c'est absolument pas de faire du profit. L'objectif de la Jeune Chambre économique, c'est de créer des actions qui améliorent la vie sur le territoire et qui ont vocation à être transmises. Donc, effectivement, on s'appelle Jeune Chambre économique parce que c'est un mouvement national et donc on reprend le nom, et même international, hein, puisque c'est né aux États-Unis. Et effectivement, Jeune Chambre économique, mais parce que, comme je disais, c'est un des piliers sur lesquels on agit. C'est-à-dire qu'effectivement, on va peut-être, ça arrive qu'on mène des actions pour favoriser le développement économique, mais c'est un des piliers. Voilà. Il n'y a pas de lien avec la chambre de commerce, comme parfois les gens peuvent l'imaginer, ça n'a rien à voir.
Et alors, quand vous avez souhaité monter votre propre entreprise, vous aviez identifié un besoin qui tournait, je crois, autour de l'engagement des employés en fait, dans l'entreprise. Est-ce que vous voulez nous en dire?
Il y a plusieurs constats qui m'ont amené à créer CiviTime. Le premier, comme je disais, qui porte notamment sur la RSE. Mais au-delà de ça, il y a aujourd'hui, il y a des chiffres qui sont assez, assez inquiétant en fait sur le désengagement des salariés en entreprise. Y a une image que j'aime bien prendre pour illustrer un peu ça. Imaginez une barque, et dans cette barque, il y a 5 personnes. Parmi ces 5 personnes, il va y avoir une personne qui rame très très fort pour faire avancer la barque. Il y a 3 personnes qui mettent des petits coups de rame à gauche, à droite, mais globalement, elles attendent beaucoup de la première personne. Et puis, la dernière personne a fait des trous dans la barque. Eh bien, cette barque, c'est votre entreprise, c'est les entreprises en France. Donc, en France, aujourd'hui, il y a un salarié sur 5 qui est désengagé de son travail. Et un salarié désengagé, c'est un salarié qui coûte en moyenne un peu moins de 15 000 euros par an à son employeur, parce que c'est des coûts liés à l'absentéisme, au turnover, parce que c'est potentiellement quelqu'un qui va partir, donc il va falloir recruter quelqu'un à la place. Donc voilà, ça génère des coûts pour l'entreprise. Et puis, bien sûr, des coûts liés au manque de productivité de ces personnes-là. Donc, il y a un vrai besoin de réengager les salariés dans leur entreprise. Alors, il y a plein de moyens pour le faire. Il y a tous les sujets liés les sujets de qualité de vie au travail, les sujets de formation, la rémunération, plein de leviers permettent de réengager les salariés. Et nous, le levier sur lequel on joue, c'est de développer le sentiment d'appartenance du salarié. On se dit qu'un salarié qui est fier d'être dans son entreprise, parce que cette entreprise a des valeurs, parce que cette entreprise s'engage sur les volets, notamment sur la RSE, comme on l'a évoqué tout à l'heure, eh bien du coup, je vais avoir envie de m'impliquer dans cette entreprise, je vais m'y retrouver. Et donc on sait que à travers CVDesign, on contribue également à réengager ses salariés dans leur entreprise.
Mais il y a aussi peut-être un positionnement éthique alors. Ça veut dire qu'on considère que c'est grave de ne pas être engagé dans son travail, de percevoir ça comme un gagne-pain ou de dire je fais le strict minimum. L'idée, c'est d'emmener les gens au-delà de ça.
Oui, c'est ça. Bah, c'est grave pour tout le monde. C'est grave pour l'entreprise, bien sûr, parce qu'il y a d'ailleurs un enjeu de performance de l'entreprise, donc des collaborateurs qui vont être moins engagés, donc moins productifs ou absents, bah forcément que l'entreprise sera moins performante. Et du coup, ça peut mettre en péril aussi l'entreprise en fonction de sa taille. Une personne désengagée, ça peut mettre en péril l'entreprise et du coup, mettre en péril les autres emplois des personnes engagées. Enfin, c'est quand même dommage. Et puis, c'est aussi triste pour les personnes elles-mêmes désengagées. Enfin, je pense que quelqu'un qui n'est pas engagé dans son travail, il n'est pas content de se lever le matin. Et c'est dommage. Donc, l'idée, c'est de pouvoir leur montrer, quand c'est le cas, bien sûr, que leur entreprise est engagée et justement jouer sur ce fameux sentiment d'appartenance.
Donc, ça veut dire que là, vous dites quand c'est le cas, ça veut dire que les entreprises auxquelles vous proposez votre jeu, c'est évidemment des entreprises qui ont un réel engagement RSE.
Bah, aujourd'hui, je connais peu d'entreprises qui n'ont pas réellement des engagements RSE. Quand on parle, il ne suffit pas. C'est pas parce qu'on n'a pas de stratégie RSE qu'on ne fait pas de RSE. Toutes les entreprises aujourd'hui ont à cœur l'inclusion des personnes en situation de handicap, par exemple. Ben, ça, c'est de la RSE. Toutes les entreprises recyclent leurs papiers. Ça, c'est de la RSE. Toutes les entreprises, par exemple, sont regardantes sur les sujets de discrimination ou d'harcèlement au travail. Ben, ça, c'est de la RSE. Donc, oui, pour répondre à votre question, oui, aujourd'hui, on travaille avec des entreprises engagées, mais je suis intimement convaincu que toutes les entreprises sont engagées, alors pas tous à la même hauteur, pas toutes à la même hauteur, pardon, mais oui, tout le monde est engagé à son niveau, et c'est pas parce qu'on n'a pas une stratégie RSE clairement identifiée qu'on ne mène pas des actions RSE.
Alors, un serious game, c'est tout jeu dont la finalité première est autre que le simple divertissement. Donc, cette phrase n'est pas de moi. Donc, est-ce que ça s'applique bien à CVTime? Et si oui, comment ça marche, en fait, CVTime?
Oui, alors effectivement, l'objectif, finalement, on est un serious game, donc on est un jeu pédagogique, mais le jeu, finalement, n'est qu'un prétexte pour atteindre quelque chose de plus profond. Et donc CVTime, c'est une solution qui a été développée par des psychologues, des psychologues du travail notamment, pour identifier quels sont les leviers psychosociaux sur lesquels il est nécessaire d'agir pour engager un collaborateur dans une démarche RSE, sur un projet d'entreprise, sur différents sujets. Quels sont les leviers sur lesquels il faut jouer? Et en face, chacun de ces leviers psychosociaux identifiés par nos psychologues, on a nos game designers. Donc les game designers, c'est ceux qui inventent les mécaniques de jeu, qui ont créé, qui ont imaginé des modules en se disant, ben voilà, on va développer tel module de jeu pour jouer sur tel levier psychosocial. Ce qu'il qui fait qu'aujourd'hui, on a une vingtaine de mécaniques de jeu sur étagère, donc qui sont des mémories, ça peut être des duel quiz, ça peut être des Pictionary, ça peut être des masterminds, ça peut être voilà, une vingtaine de mécaniques comme ça, qu'on va venir assembler en fonction de ce que notre client souhaite provoquer auprès de ses collaborateurs, en fonction de son niveau de maturité sur le sujet. Est-ce qu'on est en phase de sensibilisation? Est-ce qu'on est en phase d'adhésion, en phase d'implication? Et qu'ensuite, on assemble ces mécaniques, on les met à disposition de notre client et on personnalise le contenu de ces mécaniques.
Et comment vous faites pour avoir un jeu adapté à toute une gamme de personnel, en fait, de salariés qui sont très différents, qui ont des compétences très différentes dans une entreprise? Comment vous arrivez à faire jouer tout le monde ensemble?
Ça, c'est le travail du game designer, parce que un bon game designer va justement dans le design, dans la conception du jeu, prendre en considération les différents profils de joueurs qu'on peut avoir. Et les profils de joueurs, effectivement, il y en a plein, hein. Il faut que notre solution s'adapte, soit aussi bien attractive pour le jeune ingé de 25 ans que pour Francine à la compta de 55 ans. Et donc ça, c'est un vrai sujet pour nos game designers. Et c'est comme ça qu'ils conçoivent le jeu. Donc, sans faire un cours de game design, mais en gros, il y a quatre profils de joueurs. Il y a ceux qui vont être intéressés par la compétition. Donc voilà, je m'impliquerai dans un jeu que si je peux battre les autres. Voilà, c'est un profil de joueur. Donc on intègre cette dimension dans le jeu. Il y a ceux qui vont être intéressés pour jouer uniquement s'ils sentent qu'ils contribuent à une réussite collective. Donc eux, ils ont besoin de jouer en équipe. Donc c'est également une dimension qu'on intègre dans le jeu. Il y a ceux qui vont s'impliquer s'ils sentent qu'ils ont la possibilité d'avancer à leur rythme, de découvrir le jeu comme ils le souhaitent, qu'ils ne sont pas guidés d'un point A à un point B, mais ils peuvent vraiment découvrir par eux-mêmes et explorer le jeu. Et puis, il y a ceux qui vont, pour s'impliquer, ont besoin de sentir qu'au fur et à mesure qu'ils avancent, ils apprennent des choses, qu'il y a une vraie progression pour eux, qu'ils apprennent des éléments différents et qu'ils sont de plus en plus aguerris sur un sujet. Et bien, c'est ce qui va les motiver. Donc voilà, il y a tous ces profils de joueurs-là et nous, le job du game designer, c'est que dans chacun des produits que l'on a chez Civitime, que ces produits parlent à tous ces joueurs-là. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des super taux de participation en entreprise puisque en moyenne, quand on déploie Civitime dans une entreprise, quelle que soit sa taille d'ailleurs, on a un taux de participation de 65%, ce qui est assez intéressant. Et on a des taux de complétion qui dépassent les 70%. Donc, la complétion, c'est des gens qui commencent le jeu et qui vont jusqu'au bout. Donc, c'est des statistiques qui sont très intéressantes pour les entreprises. Et ça montre bien que le jeu est un excellent moyen pour faire passer des messages.
Et alors, comment vous évaluez l'impact de ce jeu une fois au terme de l'action, une fois que l'action a été menée?
Tout va dépendre, en fait, de l'objectif du jeu en soi. Parce que par exemple, le niveau 1, on va dire, ou la saison 1 de Civitime, c'est le niveau sensibilisation. Quel objectif on cherche quel est notre objectif? L'objectif de la sensibilisation, c'est diffuser de l'information et faire prendre conscience aux collaborateurs des enjeux auxquels l'entreprise est confrontée sur le développement durable, par exemple. Voilà, notre objectif, c'est de passer des messages. Donc, on va mesurer à travers des quiz, par exemple, ou à travers d'autres modules, que le collaborateur a bien retenu le message, a bien retenu l'information, il a bien compris. Voilà. Donc ça, c'est un premier objectif. Donc ça, on le mesure de façon très tangible. Sur l'adhésion, le niveau 2, c'est l'adhésion. Donc, susciter l'approbation du collaborateur sur les engagements de l'entreprise. De la même façon, on va pouvoir s'assurer qu'il a bien compris et qu'il adhère à ce que l'entreprise met en place. Et puis, sur le niveau implication, où là, on est clairement sur le passage à l'acte, comment on mesure que le collaborateur passe réellement à l'acte? Eh bien là, on a des modules de jeu type des défis, donc c'est des défis à faire dans la vie réelle. Donc si on est sur la thématique, par exemple, mobilité responsable, par exemple, le collaborateur, si un des défis, ça va être demain, je viens en vélo au travail, eh bien il va devoir qu'il flash un QR code qui va être positionné dans le parc à vélo de l'entreprise et il va flasher le QR code pour montrer qu'il est bienvenu en vélo. Ou alors, il va prendre une photo de son déplacement en vélo pour valider qu'il l'ait bien fait. Ou alors, des fois, même des clients restent sur du déclaratif parce que l'objectif, c'est plus de faire passer le message. Mais voilà, on a ces moyens de contrôle en fonction du stade où on en est dans l'engagement du collaborateur.
Ah oui, moyen de contrôle, ça peut être étonnant quand même, un moyen de contrôle.
C'est étonnant, non. Enfin non, je vois pas ce qu'il y a d'étonnant là-dedans. L'objectif pour nous, c'est de bien mesurer. C'est plus pour mesurer l'efficacité de notre solution que de mesurer que le collaborateur l'ait bien fait ou pas fait. D'ailleurs, les statistiques qu'on remonte sont anonymes. Ça veut dire que l'employeur ne pourra pas dire « Tiens, ben, Thierry de la compta, il est jamais venu en vélo, mais par contre, Alexandre, lui, il vient tous les matins en vélo, donc lui, c'est un bon salarié. » Non, ça, le client ne le sait pas. Le client sait le nombre de collaborateurs qui ont réalisé tel ou tel défi, le pourcentage de connaissances sur tel ou tel sujet, mais de façon anonyme.
Est-ce que vous voulez nous parler de quelques entreprises qui ont fait appel à vous ?
Oui, effectivement, on travaille beaucoup avec des entreprises du CAC 40, que ce soit dans le secteur bancaire, comme on va dire bancaire finance, donc je pense au Crédit Agricole, à la Société Générale, à la Banque Postale, Euler Hermès, la société Euler Hermès, qui sont certains de nos clients. On travaille aussi dans l'hôtellerie avec le groupe Barrière, par exemple, dans l'industrie ou dans la logistique avec L'Oréal, avec Shep, que ce soit au niveau France ou même avec L'Oréal au niveau international, puisqu'on a déployé Civitime dans 55 pays, auprès de l'ensemble des entités L'Oréal. Arcade Beauty, enfin bref, voilà, toute taille de clients, donc ça va de l'entreprise de 50 salariés à 150 000 salariés, et en France ou à l'international.
C'est quoi les perspectives pour votre entreprise, puisque vous êtes déjà dans des collaborations à une échelle internationale? Qu'est-ce que vous aimeriez développer de nouveau?
Bon, on a encore plein de choses à faire sur le produit. Aujourd'hui, on a un produit qui fonctionne bien, dont les clients sont contents, mais on a encore énormément de choses à faire pour le faire maturer, ce produit, et puis créer de la valeur dessus. Donc, on a encore un marché qui est énorme. C'est pas parce qu'on est à l'international que le marché français est saturé. Bon, là, on est à l'international plus par opportunité pour les clients qui nous ont embarqués à l'international. Mais sur le marché français, on a encore tout à faire. Il y a encore beaucoup de choses. Merci beaucoup pour ces questions et puis au plaisir.
Merci, bonne journée.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Nous écoutions Anthony Mollet, président fondateur de Civitime. Alors, cette émission se poursuit avec l'arrivée dans les studios de nos deux invités de ERS, étudiants relais santé. Élise et Maëlle, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes ici dans le studio pour nous parler de l'addiction aux écrans, je crois.
Déjà, on proposait de présenter un peu qui on était parce qu'on n'était pas, on n'est pas venu cette année encore. Donc nous, toutes les deux, on est du groupe addiction des ERS. Donc c'est-à-dire qu'on justement, on traite de tout ce qui est addiction aux écrans, et des addictions aussi donc sans substance. Ça en fait partie. Par exemple, les réseaux sociaux, etc. On travaille aussi sur les addictions avec substance, donc les plus connues. Et par exemple, on a fait des actions sur le mois sans tabac, le Dry January. Et surtout, en fait, normalement, en temps normal, on reçoit les associations avant qu'elles organisent des soirées pour évaluer les risques, aussi bien liés au lieu qu'à la consommation d'alcool, etc. Donc c'est important que les associations, avant d'organiser une soirée, elles passent par nous pour qu'on puisse évaluer un peu les risques de leur soirée et qu'on en discute ensemble pour trouver des solutions, pour limiter au maximum les risques. Donc je vais te laisser présenter le sujet.
Donc aujourd'hui, on va vous parler de l'usage et du mésusage des écrans et de la surconnexion, surtout en période de confinement. Donc on souhaite commencer une réflexion sur nos usages perso, que nous, on a tous des écrans en ce moment. Et pour commencer, on va vous donner quelques chiffres qu'on a pris du site Le Bon Usage des Écrans. Donc 60% des Français regardent leur téléphone en premier au réveil. Et 48% consultent leur téléphone toutes les 10 minutes par peur de manquer une information. Donc ce sont des chiffres quand même conséquents, et qui en plus sont exacerbés par le confinement, donc par une surconsommation d'écran. Pourquoi est-ce qu'on regarde tant nos écrans? Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la réception d'une notification, il y a un pic de dopamine qui va induire du plaisir, un circuit de la récompense, ce qui va procurer une sensation de besoin, donc une addiction, mais qui au bout d'un moment va être contre-productive. Et aujourd'hui, on va donc vous parler notamment des illustrations qu'on a problématiques. Par exemple, un quart des jeunes ont un usage problématique, c'est-à-dire que ça va être leur principal centre d'intérêt, qui vont avoir une perte de contrôle, ils vont, enfin, la vie réelle va être délaissée pour une vie virtuelle. Et donc ça va former de la souffrance pour cette personne, mais également pour ses proches. Aussi, bah, 58% des Français utilisent plusieurs écrans en même temps. Il va y avoir quand même une moyenne de 3 heures par jour qui est conséquente, donc passée sur son téléphone. Il va y avoir l'apparition de syndromes, comme par exemple le syndrome de vibration fantôme. On va avoir un peu l'impression que son téléphone vibre alors que non. Et il va avoir aussi l'apparition de la nomophobie, donc la peur d'être sans son téléphone.
Donc on a décidé d'organiser notre propos en deux parties. La première, c'est sur les conséquences santé, sur la santé physique et mentale. Bon, déjà, avant toute chose, il y a des conséquences positives. Donc, par exemple, ça permet d'approfondir certaines relations, par exemple à distance, avec tout ce qui est WhatsApp, Skype, etc. Ça permet aussi de faire le tri, parce qu'en fait, on se rend compte qu'à force de voir du contenu qui nous plaît pas, on va le supprimer. Donc ça permet aussi de faire le tri dans ce qui nous intéresse vraiment, les personnes avec qui on a vraiment envie de rester en contact sur le long terme. Et ça permet aussi de prioriser en fait finalement ces liens sociaux. Après, on a aussi vu, surtout dans cette période de confinement, que ça pouvait être un support d'activité physique. Par exemple, il y a des lives sportifs, des sessions de sport qui sont organisées par exemple ne serait-ce que par le SUAPS dans certaines universités. Et qui permettent à des gens qui pratiquent pas de sport de le faire à distance. Et c'est assez sécurisant aussi parce que ça permet de garder un lien constant, de pouvoir appeler régulièrement. Et ça peut permettre aussi en période de confinement de rompre avec l'isolement dont qu'on pourrait ressentir. Et donc c'est vrai qu'il y a des bons côtés, mais il y a aussi des conséquences assez négatives. Donc on va commencer par celle qui est assez présente et dont on entend souvent parler, c'est la douleur oculaire, donc le fait d'avoir mal aux yeux à cause des écrans.
Et pour ça, nous, on va vous donner certaines solutions. Par exemple, vous pouvez activer le mode nuit sur les écrans, ce qui va permettre de rendre la lumière moins agressive pour les yeux. Il y a aussi ce qui s'appelle, si vous connaissez, c'est la règle du 20-20-20. Donc, c'est arrêter l'écran toutes les 20 minutes pendant 20 secondes à 20 pieds. Donc, 20 pieds, ça correspond à 6 mètres. Ça va permettre de moins fatiguer nos yeux. Il y a aussi une petite technique, c'est celle d'acheter des lunettes anti-lumière bleue.
Après, il y a aussi le fait que c'est une source de variation de poids et le fait que en faisant des écrans, on va faire moins d'activité physique.
Et pour ça, donc les solutions, par exemple, ce serait enfin, le SUAPS propose ce qu'ils appellent le dispositif accueil public vulnérable. Donc, vous pouvez toutes les semaines vous inscrire à une nouvelle activité SUAPS. Ça, c'est disponible sur le site. Ils proposent plusieurs activités comme du badminton, de la boxe ou de l'escalade et d'autres encore. Après, les ERS Sport proposent aussi des contenus notamment sur Instagram. Vous pouvez aussi vous tourner vers les professionnels du SSU, comme par exemple des diététiciens.
Après, on a aussi lu et appris que les écrans pouvaient amener vers des symptômes dépressifs, donc tout ce qui est tristesse, baisse de concentration, de motivation, et des symptômes anxieux comme le stress.
Et pour ça, donc les professionnels du SSU sont là pour vous, parce qu'ils offrent une super écoute. Et il y a des infirmiers d'accueil qui sont présents pour rassurer, mais donc c'est pas uniquement pour les gens qui vont très très mal. C'est surtout une bonne écoute et des solutions qui peuvent être très utiles.
Après, on a aussi vu que ça pouvait impacter la qualité du sommeil. D'ailleurs, on a fait des posts Instagram avec les ER Sport sur comment trouver le sommeil et bien dormir en période de confinement.
Et donc, cette mauvaise qualité du sommeil est due à la lumière bleue des écrans, qui empêche la production de mélatonine et donc qui favorise l'éveil. Pour ça, on peut vous conseiller d'arrêter les écrans 1 heure avant de dormir. Donc, vous pouvez lire, par exemple, c'est très reposant. Ou alors aussi, continuer de mettre son réveil même le lendemain d'une insomnie. C'est-à-dire que quand vous avez fait une insomnie, Bah, ne pas perdre un rythme, ne pas se décaler. Quitte à être fatigué une journée, vous allez pouvoir vous rendormir le soir et beaucoup plus facilement, et donc avoir un ne, enfin, ne pas se décaler.
Après aussi, on a vu que même si les écrans, ça permettait de garder un lien, ça pouvait aussi déclencher un sentiment de solitude.
Et pour ça, vous pouvez, comme on a dit dans les points positifs, il suffit simplement de prendre des nouvelles d'amis et par message, c'est assez facile et on peut avoir des réponses facilement.
Oui, au lieu de scroller, directement envoyer le message à un ami pour prendre des nouvelles plutôt que juste scroller dans un fil qui nous rend pas heureux. Et on a aussi vu du coup que avec la mauvaise qualité de sommeil, ça entraînait aussi une augmentation de la fatigue, même si c'est multifactoriel, et de l'irritabilité.
Et donc, effectivement, c'est multifactoriel, les causes sont multifactorielles. Par exemple, avec l'inactivité, la surcharge mentale, le mauvais sommeil, comme on a vu bah, juste avant. Et il faut comprendre la cause et s'aider des solutions qu'on vous a données. Et il faut espérer qu'on va pouvoir trouver d'autres solutions.
Donc ça, c'était toutes les conséquences sur la santé physique et mentale, en fait, qui sont dues au mésusage des écrans. Après, du coup, on a aussi parlé des conséquences sur le mode de vie. Donc là encore, il y a des conséquences positives. Donc par exemple, il y a une amélioration de la culture, parce que grâce aux réseaux sociaux et aux écrans, c'est vrai que on a un accès plus libre à du contenu culturel, notamment avec les initiatives lancées par Arte et Concert qui permettent d'avoir accès à de nombreux concerts en ligne. Après, ça permet aussi, des fois, on a des prises de conscience en fait. Quand on fait trop d'écran, on s'en rend nous-mêmes compte et on est lassé, on en a marre, et du coup, c'est là où on va chercher des nouveaux intérêts. Par exemple, on peut décider d'apprendre le piano. Par exemple, on avait un exemple d'un étudiant qui avait appris le piano grâce à une tablette. Et en fait, après, il s'était mis au piano, alors que peut-être que s'il n'avait pas commencé comme ça, il ne se serait pas forcément mis au piano parce qu'il faut avoir l'instrument, etc. Et après, c'est vrai que du coup, il y a des bons côtés sur le mode de vie, mais encore une fois, il y a des conséquences négatives. Par exemple, la hausse de l'ennui.
Et pour ça, on peut vous proposer plusieurs astuces. Par exemple, mettre dans un planning les choses que vous voudriez faire hors écran, enfin que l'on aimerait faire hors écran. Donc, bah, des exemples comme lire la musique, enfin faire de la musique, lire, faire du sport. Ou alors, il y a aussi ce qui s'appelle l'astuce Pozzo. Donc, c'est passer 10 minutes sans rien faire. Donc, cette astuce vient de la personne tétraplégique qui est représentée dans le fameux film Intouchable et qui s'appelle Philippe Pozzo di Borgo. Et cette astuce, donc de passer 10 minutes sans rien faire, aide à relativiser et expose les vertus du silence et de l'immobilité. Et en effet, l'ennui peut être bénéfique.
Après aussi, on a remarqué que, notamment avec le confinement, la coupure était très floue entre le travail, les périodes qui étaient oui, dédiées au travail ou à l'apprentissage, et tout ce qui est vie personnelle, en fait. Et qu'avec les écrans, c'était compliqué de faire la part des choses, vu que tout se passait sur l'écran.
Mais donc pour ça, on peut vous proposer de faire un planning pour réussir à séparer les deux, pour vraiment se donner tant de temps passé sur le travail et ensuite faire une coupure nette avec tout simplement les loisirs et puis le temps passé à se reposer.
Après, on a aussi remarqué que le fait d'être constamment avec des écrans, ça crée un sentiment de solitude et d'ennui quand il n'y avait pas de bruit de fond. Et donc, il y avait des gens qui avaient recours à en fait, le fait de juste mettre un écran pour avoir un bruit de fond et pas se sentir seul. Donc là, encore une fois, on vous propose l'astuce Pozzo parce que ça permet de relativiser avec le fait de rien entendre, le silence, parce qu'il faut vraiment rien faire pendant les 10 minutes. Il faut pas méditer, il faut pas écouter de musique, c'est vraiment pendant 10 minutes rien faire, fixer le plafond et pas s'endormir, etc. Et après, on a vu aussi qu'il y avait un problème d'hyperconnexion.
Et pour ce problème d'hyperconnexion, vous pouvez faire le tri dans vos réseaux sociaux. Donc, supprimer les réseaux qui vous sont le moins utiles. Souvent, on a plein de réseaux sociaux, Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook, etc. Et donc, pouvez faire un tri parmi ceux que vous utilisez le plus et vous concentrer sur cela. Et donc, ça vous donnera un temps assez important.
Et après aussi, on a vu comme problème le problème de l'habitude des multi-écrans. Le fait, par exemple, de regarder un film en regardant son téléphone.
Et pour ça, on a trouvé quelques solutions. Par exemple, vous pouvez vous donner le défi de regarder un film sans regarder du tout vos messages. Parce que c'est vrai que souvent, quand on est devant la télé ou devant son ordinateur, enfin, on prend son portable dès qu'il y a un moment de pause. Et dans le même style, vous pouvez vous trouver des séries podcast, qui sont uniquement audio, et simplement les écouter sans regarder d'autres écrans en même temps. Et ça peut être un exercice assez intéressant, enfin un défi assez intéressant.
Donc ça, c'était les conséquences de l'usage des écrans sur le mode de vie. Après, on va aussi évoquer des solutions plus générales, donc qui ne répondent pas forcément à des conséquences négatives ou positives. Par exemple, on propose de faire un peu une introspection, en fait, se rendre compte de comment est-ce qu'on utilise les écrans, est-ce que c'est pas un mécanisme de compensation, est-ce que c'est pas uniquement pour combler l'ennui. Après, c'est pas forcément négatif sur le moment, mais ça peut le devenir. Et le tout, c'est de s'en rendre compte, de prendre conscience de sa consommation. Par exemple, sur Instagram, il y a un moyen de savoir son activité, donc le temps qu'on a passé sur les écrans. Donc c'est bien de le consulter de temps en temps pour se rendre compte. Ça permet d'avoir la moyenne horaire passée sur Instagram à la semaine. Et ça peut être aussi intéressant de voir les jours. Genre, pourquoi est-ce que tel jour, est-ce que vous avez plus consommé? Est-ce que c'est parce que vous étiez plus seul? Est-ce que c'est parce que vous vous ennuyez plus? Est-ce que c'était parce que c'était le week-end, du coup, il n'y avait pas cours? Enfin, ça permet de voir un peu sa consommation d'écran, enfin d'Instagram, sa consommation d'Instagram sur la durée de la semaine. Et après, en fonction de ce que ça vous indique, c'est à vous de savoir si ça vous convient ou pas. Il y en a pour qui 1 heure, ça paraît énorme, d'autres, c'est raisonnable. C'est à vous de voir. Après, quand on utilise les écrans, c'est bien de se demander aussi pourquoi est-ce qu'on l'utilise au moment précis, pourquoi est-ce qu'on allume Instagram? Est-ce que c'est pour se divertir? Est-ce que c'est pour prendre des nouvelles? Est-ce que c'est pour s'informer? Et juste éviter de scroller dans le vide, en fait. Juste savoir pourquoi est-ce qu'on est sur ce réseau-là. Bon, après, utiliser les réseaux de façon mesurée, comme tout, évidemment. Après, il y a des choses qui peuvent être assez utiles. Par exemple, le fait de mettre son téléphone en noir et blanc. Ça le rend beaucoup moins attractif parce que c'est les couleurs qui attirent l'œil dans Instagram notamment. Et ça a fait ses preuves. Après, on peut aussi désactiver les notifications. Ça permet d'avoir des nouvelles que quand on se rend sur les applications et pas en continu sur son téléphone, même quand il est verrouillé. On peut aussi programmer des moments sans téléphone dans la journée. Donc, par exemple, avant d'aller dormir ou. C'est-à-dire que ce n'est pas la première chose qu'on prend en se levant. Et on peut aussi décider de ne plus utiliser son téléphone comme réveil, parce que ça évite qu'il soit à côté de nous, enfin, sur la table de nuit par exemple, et qu'on doive se lever pour accéder au téléphone, qu'il soit sur notre bureau, dans le salon, ou voilà. Après, il y a eu des challenges qui ont été mis en place. Par exemple, ce week-end, les 7, 6, 7 et 8 février, le challenge c'était un week-end sans téléphone. Donc, essayer pendant un week-end de se passer de son téléphone dans la mesure du possible, évidemment. Donc, voilà, c'était un défi qui a été lancé. Et après, on peut, de façon personnelle, donner le challenge de diminuer son temps moyen passé sur son téléphone. Après, si vous voulez en savoir plus, il y a des sites informatifs comme Le Bon Usage des Écrans, donc là où on a trouvé beaucoup d'informations, et Addict Aid. C'est aussi un site internet. Et quoi qu'il arrive, vous pouvez contacter les professionnels du SSU, les infirmiers, les psychologues qui sont à votre écoute.
Eh bien, merci à vous deux pour toutes ces informations autour de l'addiction aux écrans. Alors, moi, j'ai envie d'ajouter aussi que écouter des podcasts, ça permet même de faire autre chose en même temps, par exemple de la cuisine, du ménage, ou toutes ces choses voilà, qu'on a du mal à faire quand on est plus collé sur des réseaux sociaux. Et je me demande aussi dans quelle mesure la réponse à la question pourquoi est-ce que je vais sur les réseaux sociaux, est-ce que la réponse ce serait pas bah parce que tout le monde y est? Et donc là, qu'est-ce que.
Oui, c'est vrai qu'il y a ça. C'est vrai que, bah, comme tout le monde y est, justement, c'est aussi un moyen d'être au courant de la vie de tout le monde alors qu'on ne les voit pas. Mais c'est vrai que ce qui est compliqué, encore une fois, c'est aussi la frontière entre le travail et le personnel, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des informations qui passent par ces réseaux sociaux, des informations pour le travail, pour les cours, etc. Et donc c'est vrai que oui, il y a une part de société, en fait, de fait de société, qui fait qu'on est sur les réseaux. Après, le propos, c'est pas arrêter les réseaux, arrêter les écrans, c'est juste s'interroger sur sa consommation, justement. Est-ce que j'allume Instagram juste parce que tout le monde y est, ou parce que j'ai envie d'avoir accès à un contenu spécifique ou de parler à quelqu'un? Voilà, c'est juste se questionner, faire une introspection, et voilà, en fait.
Mais alors, sur l'idée de... Il y a des choses liées aux études ou au travail sur les réseaux sociaux, c'est quoi, par exemple? Est-ce que vous pourriez donner des exemples?
Par exemple, notre conversation de travail, elle est sur Messenger. Dès qu'on a des idées, par exemple, qui est-ce qui va aller faire la radio ce matin, et ben c'est un message qui est arrivé sur Messenger. Et c'est vrai que, en même temps, c'est aussi facile parce que c'est aussi des outils qui permettent de faire des conversations de groupe, de partager des médias de façon très rapide. Et c'est vrai que c'est un moyen de communication qui est facile à utiliser, et comme tout le monde l'a, justement, ça permet de rentrer en contact avec un grand nombre de personnes. Et pareil, tout ce qui est conversation de classe, conversation de promo. Par exemple, j'imagine que pour les rodéos, ça passe aussi par...
Oui, par totalement. Les groupes de promo sont la plupart du temps sur Facebook. C'est le réseau social le plus utilisé, je pense, au niveau du travail. Et sans ça, les personnes qui ne l'ont pas ne sont pas au courant. Et donc peuvent des fois rater des cours, tout simplement parce que l'information est passée par ce réseau social, parce que ça a été parce que quelqu'un a pensé à aller regarder ses mails à un endroit, et c'était très spécifique, et surtout notamment avec le confinement, parce que avant les gens pouvaient se voir à l'extérieur pendant les cours et dire ah oui, je sais pas si tu as remarqué, mais cette semaine on a telle chose qui a changé dans l'emploi du temps. Et donc là, l'information passait en réel. Mais maintenant, c'est plus compliqué de se voir. Donc l'information virtuelle est très importante. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on réussisse à trouver le bénéfice et le risque dans l'utilisation de nos écrans et dans l'utilisation des réseaux.
Mais alors, ça fait presque un an que ça dure, cette histoire de confinement. Alors, comment on va pouvoir revenir? Est-ce qu'on peut déjà, à votre avis, revenir à un mode de communication tel qu'il était avant, avec plus d'humains en vivant? Ou est-ce qu'on va rester coincé, entre guillemets, dans les logiques de dématérialiser?
Je pense qu'on peut y revenir assez facilement, parce que il y a quand même la plupart des gens commencent à en avoir marre des écrans, et on pense tous à se pouvoir se revoir, à retrouver la vie entre guillemets normale qu'on avait avant, ces écrans, des fois on a envie juste de les arrêter, de les stopper, et de faire autre chose, alors que avant c'était pas vraiment le cas. On rentrait de cours et on avait plus envie d'être sur notre portable, d'être dans notre monde virtuel, alors que là, le monde virtuel, on y est toute la journée. Et on a envie de faire autre chose, d'y être séparé. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais je pense que on peut retrouver la vie qu'on avait avant, avec beaucoup de communication et en sortant, en revoyant d'autres personnes en réel.
Oui, je pense qu'il y a un vrai manque, enfin, auprès de la population étudiante. En tout cas, on le sait, tout le monde en parle, donc je pense que ce manque, quand ce sera possible de retourner au café, de se voir, etc., je pense que les gens seront au rendez-vous.
Alors, on peut dire que le millefeuille a une couche en plus, hein, c'est-à-dire tous les cours en distanciel. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est peut-être pas simple à vivre en tant qu'étudiant. Je ne sais pas si vous voulez témoigner sur la question, mais...
C'est sûr que c'est compliqué, et je trouve que le fait d'utiliser justement les deux écrans, le fait d'être sur son portable et sur l'ordinateur, c'est très présent pendant les cours, parce que déjà, tout ce qui est problème technique, donc moi, j'arrive pas à me connecter, est-ce que vous pouvez dire au prof de me faire rentrer dans la salle Zoom, s'il vous plaît? Donc En plus, il y a tout cet aspect-là qu'il faut régler. Donc, on a son téléphone allumé à côté, avec la conversation de classe. Et après, on a devant nous le professeur qui fait pas de son mieux pour rendre le cours attractif en visio. Et c'est vrai que ça fait beaucoup d'écrans et puis beaucoup de sollicitations aussi. On n'est pas juste en classe et on suit un cours. Non, on est en semi-classe, on règle les problèmes techniques, on attend que les gens qui ont des questions mais qui n'ont pas de micro, ils envoient un message pour qu'on pose la question à leur place, etc. Enfin, c'est assez compliqué à gérer.
Et comme c'est toujours dur d'être concentré dans un cours quand on nous parle de quelque chose qui, des fois, ne nous intéresse pas forcément énormément, dans les classes, en réel, là, on pouvait faire une pause brève en parlant à son camarade, même du sujet ou d'autres choses, et après, on revenait au cours. Alors que là, la pause, bah, elle est forcément virtuelle. On va pas pouvoir faire une pause pour partir. Loin de son ordinateur, enfin pas tout le temps, et puis après c'est gênant si on rate un moment, enfin c'est compliqué.
Mais j'en reviens aussi à votre proposition de faire des coupures de 20 minutes quand on est devant un écran, mais ça semble peu compatible avec un cours d'1 heure ou voire de 2 heures, voire 3 heures, j'exagère, mais enfin en tout cas avec des cours, disons d'au moins 1 heure en visio. C'est difficile de se dire, voilà, et je pense qu'il y a peut-être la tentation de se dire, j'allume pas ma caméra, comme ça je peux faire carrément autre chose en même temps.
En fait, la coupure de 20 minutes, c'est pendant 20 secondes. C'est juste un exercice oculaire qui demande, il faut regarder quelque chose de près, par exemple son cahier, ensuite regarder quelque chose de le plus loin possible. Bon, si on est dans notre chambre, c'est pas pratique, mais par exemple regarder par la fenêtre, au mieux c'est regarder jusqu'à 6 mètres, et après revenir à son écran, donc pas pendant 20 secondes. Donc pendant ce temps-là, on peut continuer d'écouter le cours, mais c'est vraiment pour soulager ses yeux.
Mais voilà, enfin, j'imagine que ça doit être fatigant mentalement d'avoir des cours comme
Oui.
ça. Et alors, il me semble, je ne sais pas si le SSU est lié aussi au futur temps d'accueil qui ont été pensés par l'Université de Tours, par le BVE. Il y a l'idée de mettre en place des lieux d'accueil, des tiers-lieux d'accueil pour les étudiants qui seraient dans des situations de fragilité. C'est quelque chose
Donc, je ne sais pas si le SSU fait partie va faire partie de cette initiative, mais en tout cas, déjà au SSU en ce moment, là, dès maintenant, il y a ce qu'on appelle un accueil psychologique. Donc, c'est des gens qui sont à disposition, sans rendez-vous. On se rend au SSU, on peut discuter, mais ça peut être juste l'histoire d'une fois, quand on ne se sent pas très bien ou quand on a envie de discuter. Donc, les gens, il y a un accueil psychologique et il y a un infirmier qui est tout le temps disponible pour recevoir les gens. Pour discuter, pour réorienter aussi si besoin vers d'autres professionnels. Et là, c'est dès maintenant, en fait, au SSU, toute la journée. Mais je ne sais pas s'ils vont faire partie de l'initiative du BVE.
Bien, je vous propose de faire une pause musicale, Élise et Maëlle, dans cette méridienne. Et on se retrouvera tout de suite après. Donc nous allons écouter un slam par Bonnie de Afrikanda, un groupe de slam du Burkina Faso.
À l'unisson pour lui retirer sa couronne, à cette pandémie qui ne laisse personne indifférente, riche ou pauvre, âme blâmée ou innocente, à nos gouvernants, prenez la mesure de l'enjeu, tout en nous évitant ces entrejeux. À nos populations, soyons responsables, respectons les mesures tous ensemble, de l'écoulement nasal à une gorge qui fait mal, la toux. La fièvre en continu, une difficulté respiratoire connue, sont entre autres les signes de la maladie, d'une grippe banale qui ôte ta vie. Prenons donc la mesure du danger. Il vaut mieux être un confiné que d'être un confini. Ne soyons pas des sujets vecteurs, mais plutôt des soldats veilleurs. Nous sommes en guerre contre ce corona machin. Évitons le contact direct des mains. Ne faisons pas de ce virus un autre quotidien du continent.
Un slam par Bonnie de Afrikanda, un groupe de slam du Burkina Faso, au sujet de la Covid-19 Eh bien, je vous propose, chers auditeurs, pour terminer cette émission La Méridienne, d'écouter une chronique de la bibliothèque municipale avec laquelle nous avons la chance d'avoir un partenariat qui nous permet de découvrir régulièrement des livres, des vinyles et plein d'autres choses.
Oui, bonjour, alors c'est la bibliothèque municipale de Tours sur Radio Campus Tours et moi mon truc c'est la BD, donc tout à l'heure je vous parlerai de BD.
Aujourd'hui, sur Radio Campus Tours, on fait escale à la bibliothèque de Tours.
Excusez-moi, je dis que des bêtises.
Non,
je vois bien les yeux de Mélissa que je dis que des bêtises.
Des BD, des mangas, en vois-tu, en voilà, à la bibliothèque municipale de Tours sur Radio Campus Tours.
.com.
Je voudrais parler de Popeye.
Alors, pour continuer de parler de bandes dessinées, j'avais essayé de sélectionner quelques bandes dessinées rigolotes, parce que c'est pas toujours évident à trouver, il y en a quand même moins dans l'ensemble. Donc là, c'est une bande dessinée qui date de avril 2019 en circulation chez nous, je crois qu'on l'a que à la centrale, qui s'appelle Les Aventuriers du Mekong par Gers et Pichelin, qui sont tous les deux scénaristes et dessinateurs, je crois, sur la BD en fait. Il y en a un qui dessine moins que l'autre. Par contre, ils savent bien tous les deux raconter un peu des idioties, c'est un peu... complètement décalé. Donc, en fait, page 55, il nous explique que, bon, on va ridiculiser ces petits auteurs de BD prétentieux et sans talent. La BD de reportage aura un avant et un après. Les Aventuriers du Mekong. Donc, vous partez avec eux donc, au Laos.
C'est ça le postulat de départ. En fait.
Voilà.
De faire parce un guide du voyage qui ne ressemble pas aux autres guides. Et voilà.
Ils sont un peu à la déroute parce qu'ils ne sont plus du tout reconnus en tant qu'auteurs de BD. Leur éditeur ne veut plus les éditer, donc... Donc, il leur fait un petit sous-entendu, effectivement, pourquoi pas faire de la BD reportage. Donc, ils vont croiser un mec comme Bouzard dans un bistrot, qui se fout d'eux parce qu'il ne fait plus rien. Et puis, d'autres gars aussi qui font des reportages. Donc, eux, ils partent au Laos. Donc, ils vont avoir un compagnon de voyage aussi. Là, je parle un petit peu, je passe un peu du voyage en avion, où il a arrêté avec la sécurité parce qu'il a un coupon dans sa trousse et qu'il se met très en colère et des petits gags comme ça. Donc, ils vont rencontrer sur leur périple un canard. Et en fait, le canard va être très important jusqu'au bout de l'histoire. Et le canard, comme ça va être leur compagnon de voyage, ils vont le surnommer Milou pour faire un petit clin d'œil d'un personnage éventuellement connu dans la bande dessinée, mais ils ne sont pas trop sûrs. Et voilà, donc ça part complètement blague sur blague.
Oui, c'est ça.
Ils picolent pas mal, mais on voit quand même le paysage. Ils vont rencontrer un gars avec son Volkswagen qui va les emmener dans différents endroits qu'ils sont censés visiter parce qu'ils font quand même un petit peu une BD de reportage, on ne sait pas trop en fait.
Et puis Astrid, vas-y. Il y a un personnage qui est donc, c'est un routard quoi, on va dire. Et lui, pour lui, ce qu'il faut, c'est voyager à moindre frais. Donc il est toujours dans les plans. Par exemple, il se fait passer pour un moine bouddhiste pour chaparder les offrandes, comme ça il mange à l'œil. Enfin, voilà, il fait que ce genre de choses. Et donc sa phrase qui revient tout le temps, tout au long de la BD, c'est tout à l'économie, c'est ma philosophie. Et donc il va quand même les aider. À un moment donné, il va les sortir d'un mauvais pas. Mais voilà, il croise des personnages aussi drôles qu'attachants. On passe un bon moment.
Donc voilà, si vous avez envie de rigoler en lisant une bande dessinée, a priori, ça peut le faire. Évidemment, tout le monde n'a pas le même sens de l'humour, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui pourraient apprécier.
Est-ce qu'on peut rappeler le nom de l'auteur et la maison d'édition ?
Donc, les deux auteurs sont Gers, G-U-E-R-S-E et Pichelin. Et l'édition, c'est Patakès.
Je vois que cette pile de BD n'est pas encore finie, donc quel est l'ouvrage suivant ?
Ça c'est une nouveauté.
Alors la nouveauté s'appelle « Nouveau contact ». Donc l'auteur c'est Duhamel. L'éditeur c'est Grand Angle. Donc c'est un gars qui vit en Écosse, je pense que voilà, une petite quarantaine d'années. Et puis, il est photographe, il aime bien faire des photos, la nature, tout ça. Et puis, un jour, il va malencontreusement, tout au début en fait, de la BD, il va photographier une créature sans doute inconnue de tout le monde, en fait, quoi. Un peu un genre de monstre du Loch Ness, sauf qu'il est bleu, transparent, il a l'air tout sympathique, il a des yeux rigolos. Et puis, bêtement, il va poster cette photo sur Twitter. Ils ne disent pas Twitter, ils disent Twitter. Chose qu'il ne fait pas d'habitude. Non, il avait arrêté de faire parce qu'en fait, il se remet en cause.
Par rapport aux réseaux sociaux.
Alors voilà, donc les réseaux sociaux voilà, vont prendre la photo. J'ai du mal à expliquer. Vas-y Astrid, tu l'as pas lu.
Je ne l'ai pas lu, mais je connais le...
Donc en fait, les médias vont s'emparer de l'affaire. Et ça va mal tourner parce que donc, dans ce coin paisible d'Écosse vont débarquer eh bien, l'armée, toutes les médias, des mouvements écologistes, pardon. Féministe peut-être aussi, oui féministe parce qu'à un moment il y a aussi un truc qui est posté sur sa femme à son insu, il est séparé de sa femme mais il avait fait des photos à un moment donné, voilà, donc c'est l'histoire de piratage et de comment les réseaux sociaux peuvent vous pourrir la vie quoi. Et puis un petit coin paradisiaque d'Écosse et, voilà. Lui il s'en veut à mort évidemment d'avoir posté un jour appuyé sur le bouton et donc bah, faut lire la BD parce que c'est rigolo aussi en même temps, même si ça dénonce tout ça,
c'est fait avec humour, voilà, voilà.
Et là, je vois
une nouveauté troisième, également.
Ouais. Qu'est-ce que tu vois ? Vas-y, Mélissa.
Je vois une couverture rouge. Je vois des lettres noires et un visage d'homme.
Connu peut-être, non ?
Oui, connu, je crois.
Il n'y a pas son nom marqué au-dessus, non ? C'est pas ça ?
En gros.
En gros, très gros.
Alors, qu'est-ce donc ?
Vas-y.
Orwell, je crois.
Après, il y a un sous-titre qui est assez long. Hein.
Alors, il y a un sous-titre, donc Orwell, alors, écrit par Christin et dessiné par Verdier. Donc Orwell, on le dit, donc étonien, flic, prolo, dandy, milicien, journaliste, révolté, romancier, excentrique, socialiste, patriote, jardinier, ermite et visionnaire, bien sûr. Donc en janvier 2020, ça fera 70 ans qu'il est mort, en fait. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont sorti cette BD, on peut supposer. Donc Christin, ce n'est pas son premier essai puisqu'il a 81 ans. Le dessinateur, lui, il est né en 72, je n'ai pas calculé, Sébastien Verdier. Il a fait différentes BD qu'on a aussi sur le réseau, dont le marathon de Safien avec Didier Kélaguyot, qu'on a au Rive du Cher, qui est sympathique comme BD aussi. Et Rencontre sur la Transsaharienne, qu'il a fait aussi avec Christin. Donc ça, c'est à Tournord, si vous voulez les réserver. Je les ai déjà réservés aussi. Et donc, Sébastien Verdier, ce qui est intéressant, c'est que son dessin, il est vraiment, comment dire, plutôt classique, très académique, très beau. Et le gars, bah, il est quand même autodidacte, ça c'est intéressant de le savoir, et qu'il a commencé son dessin en recopiant des planches, de Blueberry et Torgal. Alors moi, ça me scie un peu d'apprendre ça quand je vois ce dessin que je ne connaissais pas, parce que j'ai feuilleté un peu les autres BD, donc je ne les ai pas lus en fait, qu'il a fait avec Kélaguyot et puis l'autre avec Christin. Et là, sur Orwell, bah, donc, c'est une biographie d'Orwell qui est assez complète quand même, et personnellement, j'ai appris des choses. Et en même temps, sur cette BD, ils ont invité des gens connus tels que Guarnido, Larsenet, Bilal, à faire quelques planches pour honorer sans doute aussi cette...
Mais du coup, en fait, chacun parle d'un épisode de sa vie ou c'est chacun en parle ce qu'ils ont retenu d'Orwell ou comment c'est organisé ?
Bah, c'est le scénariste qui a décidé, je pense, à quel endroit voilà, ils allaient intervenir. Et donc, c'est une petite commande qu'il a dû leur faire à chaque fois. Là, c'est Blotch, par exemple. Donc avant, il y a Larsenet. Au début, il y a Juilliard aussi. Et c'est terminé par Bilal avec quelque chose qui parle bien, une jolie planche. Mais surtout, bah, moi, je félicite le gars, M. Verdier, que je ne connaissais pas, je le redis, pour son super dessin. Et, et aussi dans le scénario, enfin dans l'écriture du roman, de la BD, il y a des extraits des textes d'Orwell qui sont du coup en tapuscrit. Donc on voit que c'est bien lui qui dit telle et telle chose. Et c'est très important parce qu'effectivement... Il n'a pas dit que des bêtises, le gars. Voilà. Donc, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que c'est une BD qui va avoir son petit succès. Et ça fait du bien de reparler un petit peu de ce monsieur aussi.
Est-ce qu'on peut rappeler l'auteur, enfin les auteurs pour cette bande dessinée et la maison d'édition ?
Christin, Verdier et la maison d'édition, c'est Dargaud, chez Dargaud. Et donc, participation d'André Juilliard, Olivier Balèze, Manu Larsenet, Blutsch, Guarnido et Enki Bilal.
Et donc, toutes ces merveilles sont à retrouver dans quelle bibliothèque ? Dans lesquelles du réseau ?
Alors là, c'est Bibliothèque Centrale.
C'est Centrale et puis aussi au Sanitas.
Sanitas également.
Voilà. Et est-ce qu'on peut toujours les réserver en ligne sur le site ?
Oui.
Elle n'est pas encore en circulation.
Mais dès qu'elle sera en circulation, oui.
Voilà.
Une petite dernière ou pas ?
Bien sûr, on a le temps.
Alors, la petite dernière, c'est une... C'est une petite perle donc, qui s'appelle La boîte de petits pois, qui est scénarisée par Guidré, je ne sais pas comment on dit, qui est une chanteuse également, que je ne connaissais pas, qui est une chanteuse. Il ne faut pas s'y tromper, ce n'est pas pour la jeunesse apparemment.
Même s'il y a deux... certains titres, par exemple... Oui, effectivement, parce que dans le même, il y a « On fait tous caca » et l'autre, il y a marqué « Toutes des putes ». Donc c'est vrai que ça peut porter à confusion.
Est-ce que tu connais Mélissa ou pas ?
Je n'ai pas encore cette chance, mais ma foi, puisqu'on me tend le CD, je vais peut-être y porter une oreille.
Je l'écoute un petit peu, bon, c'est sympa, voilà, mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est des textes pour enfants. La musique aussi, ça fait un petit peu enfantin. Mais en même temps, bon, ce qu'elle dit, c'est pas forcément pour des oreilles de 5-6 ans, quoi. Enfin, pourquoi pas, après tout, on fait tout ce caca, c'est vrai. Et les enfants, ils vont décoder ce qu'ils auront envie de comprendre. J'ai pas écouté Toutes des putes, j'ai écouté Chute, alors c'est que de la musique, je crois. Bon, en tous les cas, sa bande dessinée qu'elle a écrite avec un dessinateur que je ne connaissais pas non plus, mais après, en même temps, c'est sa première BD qui s'appelle Oli R. Et ben, c'est du très beau dessin qui peut faire penser un petit peu à Camille Jourdi, oui. Peut-être. Et puis aussi une
c'est
autre.
C'est un peu enfantin aussi, je
oui,
trouve.
Ça fait, ça fait enfantin. Maintenant, ça peut être lu aussi par la jeunesse, hein, pour le coup, cette BD. Donc, elle est très intéressante parce qu'en fait, cette. Guidré, elle est née en Lituanie, en fait, c'est encore l'URSS à ce moment-là. Donc, ils disent bien qu'elle est auteure, compositrice et interprète et humoriste surtout, parce que cette BD, justement, est pleine d'humour, alors qu'elle décrit ce qui se passe dans le pays, quand c'est quand même assez totalitaire, puisque donc, les gens, bah, il faut absolument qu'ils disent, même aux touristes, les rares touristes qui peuvent intégrer, enfin, qui peuvent aller en Russie à ce moment-là, eh bien, ils n'ont droit de voir que certains lieux, et à chaque fois qu'ils vont croiser des Russes, enfin... ceux qui vont devenir lituaniens, pardon, ben toujours il faut dire tout va bien, on est content, on est heureux ici, on a tout ce qu'il nous faut, voilà. Enfin, vous connaissez peut-être un petit peu l'histoire. Et en même temps, ben, à un moment donné, dans cette BD, elle va parler de la chute du mur de Berlin, et ça tombe bien, parce qu'à la Bibliothèque Centrale, on a aussi une petite thématique sur le mur de Berlin, puisque donc ça fait maintenant 30 ans qu'il a enfin été abattu, ce mur. Et donc, il y a quelques sélections de livres et de magazines au rez-de-chaussée, dans la salle actualité. Juste derrière la cacophonie, j'ai dit caca parce que je pense à Guidré, sans doute, ne rigole pas Emmanuel, s'il te plaît. Donc, juste derrière la salle d'actu, derrière Balzac, en fait, il y a le mur de Berlin, voilà, qui est tombé. Donc, je vous invite vraiment à lire cette BD. Et je pense que aussi pour les jeunes, voilà, c'est bien parce que ça parle d'un pays qui, il n'y a pas si longtemps, n'était pas indépendant et elle nous parle aussi de cette marche qu'ils ont fait, donc les trois pays, Lituanie, l'Estonie, et l'autre, je ne sais plus, aidez-moi. Donc ils se sont tous tenus par la main, ça a fait une chaîne humanitaire de 600 km, je crois, à peu près. Et voilà, bah, c'est beau et c'est plein d'humour. Et puis à la fin de cette BD, elle fait une petite dédicace où elle fait le dessin. Elle raconte son premier concert où elle a invité sa mère et bon, elle n'a pas du tout envie que sa mère vienne voir son concert parce qu'effectivement, ses textes, bon, bah, c'est un peu bizarre quand même. Elle n'est pas sûre que ça lui plaise à sa petite maman. Et donc, bah, voilà, il faut aller jusqu'à la fin pour se régaler de cette bande dessinée.
Et donc, je voulais juste rajouter quelque chose pour rebondir sur toutes les bandes dessinées qu'on a présentées. On vous invite évidemment à nous rejoindre autour de notre rendez-vous régulier TBD. Donc la première séance a eu lieu le dimanche 20 octobre. Voilà, on s'est réunis avec les lecteurs à l'Escale en section adulte et on a discuté pendant bien plus d'une heure de bandes dessinées. C'était très sympa. Donc le prochain rendez-vous, c'est à la Bibliothèque des Fontaines. C'est le samedi 14 décembre à 15h. Donc ça peut être, évidemment, vous pouvez venir avec vos bandes dessinées, vos coups de cœur, mais aussi venir écouter les bibliothécaires présenter des ouvrages, soit des coups de cœur, soit des nouveautés.